CCE, vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui nous a préparé la deuxième émission spéciale sur la campagne municipale de Chaville.
Effectivement, dans la première émission spéciale campagne municipale, nous avions vu le mode d'élection des conseillers municipaux et du maire et rappelé comment pouvoir participer à ces élections, les règles de l'inscription sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, on parlera du fonctionnement du conseil municipal.
On passera le micro ensuite à Clément qui va nous parler cette fois-ci de soupe.
Voilà, je vais vous faire croire que je vais vous parler de soupe et puis en fait je vais finir par parler de plein d'autres choses.
Et enfin on terminera l'émission avec Jean Barbare qui va nous parler des problèmes de cybersécurité.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc qui fait trembler les DSI, transpirer les mairies et qui finit toujours par nous retomber dessus, les cyberattaques.
Tout de suite, dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, toute première question, Monique, des plus basiques, quel est le fonctionnement d'un conseil municipal ?
Bon, alors on a vu la dernière fois l'élection du conseil municipal et son installation dans les 5 jours obligatoirement qui suivent l'élection. En plus des règles et modalités de fonctionnement fixées par le Code général des collectivités territoriales, il y a un règlement intérieur obligatoire à adopter dans les 6 mois qui suivent son installation et qui porte sur 4 domaines. Les questions orales, le débat d'orientation budgétaire, les modalités d'information et de consultation des contrats et des marchés de services publics et l'expression publique des différentes tendances ou listes politiques du conseil municipal. Outre ces 4 domaines obligatoires, le règlement intérieur peut préciser tout point jugé opportun. Alors, les réunions. Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire peut en faire plus s'il le souhaite ou si une situation particulière l'exige. Le conseil doit être convoqué par écrit par le maire en respectant un délai de 5 jours francs, sauf situation d'urgence. Le conseil municipal peut aussi se réunir sur injonction du préfet ou à la demande du tiers des conseillers municipaux. Dans ce cas, le maire a l'obligation de convoquer une réunion dans les 30 jours suivant l'injonction ou la demande. Avant d'être examiné en conseil, les questions font l'objet d'un premier examen en commission. Le nombre et l'intitulé des commissions sont à la discrétion de chaque collectivité. Y siègent un nombre limité de conseillers élus par leur pair. Ces commissions n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Le maire les préside de droit. Elles élisent un vice-président chargé de remplacer le maire en cas d'empêchement. D'autres organes sont appelés commissions, il ne faut pas les confondre, mais ont une existence légale et de réelles attributions. C'est le cas de la commission d'appel d'offres, la commission de services publics locaux et la commission de révision des listes électorales, par exemple. Alors, les séances du conseil municipal sont ouvertes au public, mais il lui est interdit de manifester tout signe d'approbation ou de désaccord. Le maire a ce qu'on appelle la police de l'Assemblée. Il peut faire évacuer un fauteur de trouble. À l'ouverture du conseil municipal, le maire doit vérifier que le quorum est atteint, c'est-à-dire que la moitié au moins des conseillers sont physiquement présents. Un conseiller absent peut donner procuration à un collègue qui votera en son nom, mais les pouvoirs ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. En cas d'absence du quorum, la réunion est renvoyée à au moins 3 jours d'intervalle et peut alors se tenir sans que le quorum soit obtenu.
Quels sont les actes que peut prendre le conseil municipal ?
Alors, le conseil municipal peut prendre 3 types différents de délibérations. D'abord, les décisions. Ce sont des délibérations qui produisent des effets juridiques directs par la création ou la modification de droits sur des questions obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Un avenant, des règlements, des marchés publics, par exemple. Deuxième type de décision, des avis. Les avis, ce sont des positions exprimées par le conseil municipal sur un dossier. Alors, à la demande d'un tiers, État, collectivité riveraine par exemple, ou de sa propre initiative sur un sujet d'intérêt communal. Et troisième type de délibération, les vœux. Les vœux, ce sont des positions exprimées sur un sujet que le conseil municipal s'approprie et destiné à faire une pression publique ou une sollicitation ou une doléance. Par exemple, le conseil municipal de telle ville veut absolument que le bureau de poste soit maintenu ouvert. Enfin bon.
Quel est le champ de compétence du conseil municipal ?
Il est très large. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle la clause générale de compétence qui stipule que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il faut bien sûr composer avec l'échelon intercommunal auquel plusieurs compétences ont été déléguées, dont récemment le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, il y a évidemment matière à débat.
Tu as rappelé dans une émission précédente qu'il fallait penser à s'inscrire sur les listes électorales. Que se passe-t-il si on prévoit d'être absent lors des élections ?
Alors, c'est une bonne question, Jonathan. On peut charger un électeur de voter à sa place. On fait ce qu'on appelle une procuration. On peut trouver sans problème le formulaire sur www.service-du6public.gouv.fr. On peut donc imprimer le formulaire et aller déposer ce formulaire au commissariat le plus proche, donc pour nous au commissariat de Sèvres ou au tribunal administratif. Pour pouvoir charger quelqu'un de voter pour soi, il faut avoir la date de naissance de votre mandataire et son numéro d'électeur. Le numéro d'électeur, il figure sur la carte électorale, mais on le retrouve aussi sur le site cité plus tôt. Hein, il suffit d'inscrire le nom, la commune, et on vous donne le numéro d'électeur. Ou alors, si on n'a pas le numéro d'électeur, il faut la date de naissance, les prénoms, le nom et le nom de jeune fille si c'est une femme, et la commune où la personne vote. Alors, très souvent, si vous savez pour quelle liste vous voulez voter, les responsables de liste peuvent vous fournir le nom d'un mandataire prêt à prendre votre vote.
Et on peut rappeler que les citoyens européens peuvent aussi participer aux élections municipales. Merci beaucoup Monique Couteau sur ce point. On passe maintenant à Clément Chassin qui va nous parler de soupe. Oui, une question de Jean Barbare.
J'avais une question, Monique. C'est possible d'imprimer et d'avoir ici des formulaires directement ? Peut-être pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante ou.
On pourrait faire ça, oui, bien sûr. On peut tirer quelques formulaires et en avoir là, oui, tout à fait.
Ok, très bien. Donc vous pouvez passer au local de VCE pour récupérer un formulaire et pouvoir faire valoir votre vote.
22 rue de la Fontaine Henri IV, à Chaville, bien sûr.
Permanence tous les samedis.
Tout le monde. Merci beaucoup pour ces précisions. On passe maintenant à la chronique à table.
Jingle!
À table avec Clément Chassin.
Oui, on est en hiver, donc c'est la saison des soupes. Ah. Voilà, bon, alors moi j'avoue, je mange des soupes la moitié de l'année, hein, parce que j'adore ça, non, juste parce que c'est pratique, c'est facile, c'est pas cher, voilà. Et puis il existe plein de variétés de soupes différentes. Voilà, mais bon, quand on en fait quand même régulièrement avec des légumes de saison, là en plein hiver, on retombe quand même souvent sur les mêmes soupes, genre poireaux pommes de terre, ou des soupes avec du chou, ou des carottes, oui, ça bien sûr, enfin voilà, ou des soupes avec du chou, voilà, c'est pas toujours génial pour la digestion. Voilà, et c'est deux questions, hein, comment on varie et comment on fait pour digérer. Voilà, et du coup, je vous ai fait croire que j'allais vous parler des soupes, et finalement, je vais vous parler des épices. Parce que comment on fait pour varier les soupes ? Et on peut mettre des choses dedans. C'est quoi un épice ? Une épice. C'est quoi une épice ?
C'est quoi une épice ? En général, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la graine, de la feuille, de la...
C'est ça. C'est les différentes parties des végétaux qui sont utilisées en cuisine. Donc, c'est des végétaux. Du coup, je ne vais pas parler du sel, qui n'est pas un végétal.
Ah non, c'est minéral. Voilà.
Donc, effectivement, ça peut être des graines, par exemple. Est-ce que tu sais me dire que c'est ça ou ça ? Tiens. Voilà, alors dans les bouchées, graines connues, par exemple, il y a la moutarde, il y a le carvi, il y a... alors là, ce que je t'ai donné, là, ce que tu tiens en main...
Ah, et ça n'a pas l'air bon, là, il a l'air... Il est en train de tomber dans les pommes, là.
Il a l'air allergique.
Attends, ça gonfle.
Non, il n'y a pas de souci.
Je sais pas, mais c'est...
Ça se trouve aussi, on le trouve aussi moulu, c'est plus facile, mais moi, je l'ai aussi en graines. Non.
Mais en fait, j'ai le nez bouché.
C'est du cumin.
Ah,
voilà. Il y a aussi une graine de lin.
Ouais.
Que j'ai ramené, voilà. Alors, typiquement, le cumin, ça facilite la digestion et ça réduit les maux d'estomac. Voilà. Le lin, c'est formidable. C'est très riche en oméga 3. C'est riche en micronutriments. Enfin, c'est plein de bonnes choses, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, alors moi, comme tu vois, j'ai ramené mon lin. Dans mon moulin à café.
Dans ton petit moulin à café,
voilà,
à l'ancienne.
J'ai mon vieux moulin à café à l'ancienne.
Tu moules tes graines de lin.
Je le fais comme ça chez moi, voilà. Sinon, on peut l'acheter déjà moulu. Hein.
Quand on moulin.
Il fallait qu'il y ait un jeu de mots.
Voilà. Donc, ça peut être des graines, ça peut être des fruits. Alors, dans les fruits, il y a la muscade, le poivre, l'anis étoilé, qui est pareil, très bon pour la digestion. C'est pour ça qu'on l'utilise dans des digestifs. Et on trouve la cardamome aussi.
Uh-huh. Donc, si on met du ricard dans sa soupe, c'est bon?
Ça passe.
Pourquoi
ça
passe? Si on met de l'anis étoilé, on peut faire. La cardamome, qui facilite la digestion aussi. Alors, qui a aussi des vertus antiacides, ce qui est vachement bien, ça. Après un repas un peu lourd, c'est bien un peu de cardamome. Voilà, on trouve des écorces dans les épices.
Le bâton de
cannelle.
La fameuse cannelle. On trouve des fleurs, le clou de girofle. On trouve des tiges.
Ah, le clou de girofle, c'est une...
C'est une fleur.
C'est pas le résultat de la fleur, c'est-à-dire la graine?
C'est la fleur.
D'accord.
On trouve des tiges, enfin des rhizomes, en fait. Notamment, il y en a deux qui sont très connus.
Ah, le gingembre.
Le gingembre, voilà. Alors, qui est très bon contre les nausées, notamment.
Tout à fait.
Et qui a d'autres propriétés, je te laisse deviner.
Aphrodisiaque.
Le curcuma. Alors là, le curcuma, c'est antioxydant. Ça améliore les défenses naturelles. Il faut savoir que le curcuma a des effets décuplés quand c'est mangé, quand c'est consommé en même temps que le poivre.
Ah oui.
Mais alors,
donc ça, c'est hyper intéressant.
Le gingembre est vraiment, c'est une épice?
C'est une épice, c'est un rhizome, c'est une racine. Alors on peut le trouver dans les magasins,
en racine.
Je
ne
sais pas si c'était dans les épices.
Qu'est-ce qui le distingue du ginseng, du coup, qui est une racine également?
Ah oui.
Je sais pas.
Ah bah oui, mais il faut savoir. Non, mais Clément, il faut tout savoir ici.
C'est pas tout. voilà, donc je disais le curcuma, donc antioxydant, ça améliore les défenses naturelles, ça met une très jolie couleur jaune-orangée, voilà. Et alors, j'avais commencé à regarder sur internet les différents effets du curcuma. Alors, il y a des études qui demandent à être confirmées, tout ça, mais alors, ça aurait des effets sur le scorbut, la jaunisse, l'arthrite, sur certains cancers, sur la diarrhée, l'épilepsie, Alzheimer, le diabète, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a des pages et des pages, c'est incroyable. Voilà, et donc il y a plein d'épis, j'en ai encore oublié, le safran, tout ça.
Ouais.
Et après, il y a même les mélanges d'épices, le curry. Alors ça, des curry, il y en a des dizaines de variétés différentes. Le mélange 4 épices. Okay, je vous en ai ramené un petit peu là. Le mélange 4 épices, c'est poivre, muscade, girofle, gingembre.
Ça, j'adore.
Voilà. Il y a le zatar. Le zatar, c'est thym, origan, sumac et sésame. Donc là, le zatar qui est typique du Moyen-Orient. Et voilà, souvent on peut en acheter, en soutien aux Palestiniens.
Il y a le ras et la nout aussi.
Le ras et la nout, voilà. Il y a plein de. Enfin voilà, il y a le mélange 5 épices aussi.
Et le piment d'Espelette.
Les piments, d'ailleurs.
Et l'ail, c'est une épice? Donc, condiment.
Bah là, si tu...
Attention, si t'as pas la réponse pour la deuxième fois.
Alors là, ici, si tu le fais sécher, que tu le moules, voilà. Mais bon. Mais là, autant l'utiliser, les têtes d'ail fraîches, voilà. Bon, voilà. Moi qui insiste d'habitude sur les aliments de saison, là, l'avantage des épices, c'est que ça se conserve. Voilà, ça se conserve bien. Mm-hmm. Que on peut en faire plein de choses. Alors, je disais les soupes, mais les salades, l'été, dans une poêlée de légumes, dans une sauce, dans des pâtisseries, typiquement ça. Le 4 épices.
Le 4 épices. Ça, c'est le pain d'épices. Dans le pain d'épices.
Non, ça, c'est typique. Tu mets ça dans des biscuits et c'est du...
4 épices.
Des biscuits 4 épices.
C'est la base des spéculoos.
Ah bon,
ça. Mais oui.
Ah ouais.
Bah c'est pas la cannelle.
Ça sent le dentiste.
Ah bah alors le 4 épices, comme je t'ai dit, c'est poivre, muscade, girofle et gingembre.
Ah ouais, ça sent bon.
Ah, c'est marrant ça.
Et tu mets ça dans une pâte à biscuits et ça te fait.
Ah, mais pour moi, spéculoos, c'était de la cannelle. Enfin, c'est au moins une base
et
de cannelle.
Et non. Voilà, la base, ah, c'est le 4 épices. Voilà, par contre, beaucoup viennent de plantes exotiques. Donc, faire attention quand même aux conditions de production. Mmh. Voilà, conditions sociales, conditions environnementales. Voilà, et puis donc, on peut en faire plein de choses, des poêlées de légumes, des sauces, des pâtisseries. Une petite recette, tiens, allez, pour finir, on peut aussi l'utiliser dans du thé. On n'y pense pas toujours. On peut faire du... Alors, pareil, dans du thé, dans du café.
Avec du thym.
Tu fais du café, tu mets un bâton de cannelle avec, dans le filtre.
Ouais.
Ça donne un petit goût. Ou dans du thé. Alors, moi, là, en plein hiver, dans mon thé, je mets... je prends du thé noir, hein, parce que ça réveille le matin, avec un peu de curcuma, c'est bon pour les défenses immunitaires. La cardamome, ça, selon les goûts, ça donne un petit goût un peu acidulé qui est sympa. Et je donne quelques tours de moulin à poivre.
D'accord.
Et,
ouais.
Et après, comme ça réchauffe vraiment en hiver, c'est formidable. Ouais. Ça réchauffe naturellement, ça ne pique pas, en fait. Mmh. C'est juste, ça donne un effet réchauffant qui est très agréable. Voilà.
Merci beaucoup, merci Clément. On passe maintenant à la dernière émission sur la cybersécurité. Jingle. De tout et de rien avec Jean Barbare.
Madame, messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui relie le roi Merlin, Cloudflare et votre grand-mère qui reçoit encore des SMS de la poste alors qu'elle n'a rien commandé? Eh bien, c'est que nous sommes tous devenus des cibles. Alors dans le contexte, la menace n'est plus une exception, c'est un mode de vie. La CNIL recense 5629 violations de données rien qu'en 2024. Une ampleur inédite qui touche des millions de personnes, dont la mairie de Chaville qui a été frappée par une attaque. En clair, il ne faut plus se demander si on va se faire pirater, mais plutôt quand. Chez Leroy Merlin, ce sont des centaines de milliers de clients dont les informations personnelles, nom, adresse, téléphone, mail, date de naissance, ont été siphonnées par le groupe cybercriminel DumpSec. Chez Cloudflare, le plus gros garde du corps d'Internet, c'est carrément 37,4 terabits balancés en 45 secondes sur une seule adresse IP. Une attaque record, l'équivalent de projeter 10 000 films HD en même temps pour faire tomber Internet. Ouais, rien que ça. Maintenant, passons aux chiffres à un bal. À votre avis, combien coûte en moyenne une cyberattaque réussie pour une PME en France?
Dommage.
Ouais. Combien coûte une attaque sur une PME? Donc une PME, c'est plus de 10 personnes, ouais. Jusqu'à 250, il me semble.
250 milliards. Non, c'est le mec. Toujours plus, tu sais.
C'est le PIB.
Ouais, c'est clair. Comme ça fait descendre le truc après. Non, je sais pas. 200 000 euros.
200 000 euros, c'est pas trop loin.
Ah yes.
Clément, un chiffre.
250 000.
On s'approche.
251 000.
280 000.
Ouais, on s'approche, mais ça va être long.
287 000.
550 000.
Qui dit mieux ?
12 centimes.
C'est 466 000 euros. Presque un demi-million pour un serveur qui n'a pas été mis à jour. Et pour une grande entreprise, c'est 135 millions d'euros. Le prix d'un blockbuster Marvel sans les effets spéciaux. Par conséquent, qu'est-ce qui change pour nous, citoyens? Quand le roi Merlin se fait voler vos infos, on ne touche pas à votre compte bancaire, non. Mais les pirates fabriquent un clone numérique. C'est-à-dire qu'avec votre nom, votre adresse, votre date de naissance, les fraudeurs peuvent faire du phishing chirurgical. Faux avis de passage, fausses garanties, appel avec voix générée par IA. Bref, le bonjour madame, c'est pour votre colis, devient un chef-d'œuvre d'ingénierie sociale avec votre nom, votre prénom et les bonnes informations. Et quand Cloudflare vacille, ce sont des pans entiers d'Internet qui deviennent inaccessibles, y compris les outils de sécurité des entreprises elles-mêmes. C'est le pompier qui perd sa lance à incendie. La cybersécurité, c'est plus un sujet d'ingénieur. C'est un enjeu de citoyenneté, comme mettre sa ceinture en voiture. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Trois réflexes simples et surtout vitaux. Premièrement, activer l'authentification à deux facteurs dès que c'est possible, partout, tout le temps. Deux, changer ses mots de passe dès qu'une fuite est annoncée. Si vous recevez un mail de votre fournisseur ou d'un prestataire, changez votre mot de passe. Ne jamais cliquer sur un lien inattendu, même si c'est le roi Merlin qui vous propose un cadeau exceptionnel. Le cadeau exceptionnel, c'est un ransomware avec un neurose. Pour finir, et avant de vous donner la parole, la vérité, c'est que la cybersécurité, c'est pas un pare-feu. C'est une culture. 80% des attaques réussies sont liées à l'humain. Donc dans un monde où les attaques coûtent plus cher qu'un stade olympique, la première ligne de défense, c'est nous. Alors maintenant, je vous le demande, la France doit-elle rendre obligatoire la cybersensibilisation comme elle le fait avec la sécurité routière?
Il faut répondre aussi à cette question.
Je vous ai
oui, tout à fait. Oui, Monique me souffle à l'oreille que oui.
On peut dire.
Oui, il faudrait, mais qui le ferait? C'est ça, parce que là, je pense qu'on manque aussi de personnes formées pour nous apprendre ça, quoi.
Bien sûr, mais on pourrait penser déjà à une campagne d'affichage, peut-être, par exemple, pour commencer avec un numéro d'urgence ou un service qui pourrait le faire. Transférer, faire écouter Radio VCE régulièrement avec des intervenants.
Ou envoyer un mail inattendu à tout le monde.
Voilà.
en cliquant sur un lien pour vous prévenir.
Avec votre rythme derrière. Ça passe.
Merci beaucoup Jean Barbard. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain, comme tous les lundis. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.